Voilà. Et donc, c'est-à-dire que, c'est la fin de la page, bien que la foi est un don de Dieu, c'est une grâce, elle est fondée sur des motifs rationnels qui sont les motifs de crédibilité. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Nous n'arrivons à la foi, on se dispose à la foi, que par l'apologétique. Donc, il y a deux choses à retenir. L'acte de foi, donc l'acte intérieur de la foi, c'est Dieu qui l'impère, c'est-à-dire c'est Dieu, j'ai mis ce terme un peu technique, excusez-moi, c'est-à-dire c'est, on le fait par la grâce de Dieu, hein, c'est sûr, c'est Dieu qui nous donne la grâce de la foi, mais cet acte de foi est conforme à la raison et on y arrive par un processus d'abord de raison, pour celui qui n'a pas la foi. Notre foi, elle n'est pas en opposition avec la raison, elle est tout à fait conforme à la raison, et cela, et donc le Saint-Pédis a voulu insister là-dessus il y a un siècle, parce qu'il savait que les modernistes détruisaient l'apologétique. Et si vous détruisez l'apologétique, vous n'amenez plus personne à la foi, à part grâce spéciale de Dieu, n'est-ce pas, direct. Donc, dans le serment antimoderniste, contre l'apologétique moderne, de Bergson, ce sont deux philosophes, alors je me suis trompé, c'est pas Blondette, c'est Blondel. C'est un philosophe d'ailleurs d'Aix-en-Provence. Donc, c'était ces deux personnages étaient des ancêtres des modernistes. En tout cas, ils ont aidé le modernisme par leurs théories. C'était des personnes, des philosophes très intelligents, mais qui n'ont pas mis leur intelligence au service de la vraie foi. Donc, c'est Blondel. Vous trouvez sur Internet beaucoup de choses sur lui. Bon, j'ai cité cela pour vous montrer que ce sont des erreurs modernes. Et donc, qu'est-ce que dit par contre, c'est le haut de la page suivante, qu'est-ce que dit le serment antimoderniste? Je vous l'ai mis parce que c'est la parole de l'Église, c'est infaillible. Ce serment antimoderniste, on doit le prêter quand on devient sous-diacre, quand on accède à une certaine responsabilité dans l'Église. À chaque fois, on doit renouveler le serment antimoderniste. Eh bien, je lis là ce qui est marqué. Nous avons tous, hein, tous les prêtres et les sous-diacres, donc nous avons fait le serment sur l'Évangile de croire en cela. J'admets, je reconnais les preuves extérieures de la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire les faits divins, les miracles et les prophéties comme des signes très certains, très certains. Notre foi, elle est fondée sur des signes, des preuves très certaines de l'origine divine de la religion chrétienne, et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à l'intelligence de tous les temps, de tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui. Je tiens très certainement que la foi n'est pas un sentiment religieux. Ça, c'est ce que disent les modernistes. La foi, c'est un sentiment. Vous ressentez ce sentiment, vous avez la foi. Si vous ne le ressentez pas, eh bien, vous pouvez vous faire bouddhiste si, par exemple, vous ressentez le sentiment religieux dans le bouddhisme. Donc, ce n'est pas un sentiment aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient sous la pression du cœur et l'inclination de la volonté moralement informée. Mais la foi est un véritable assentiment, c'est-à-dire de l'intelligence, l'intelligence qui adhère à la vérité reçue du dehors, c'est-à-dire c'est Dieu qui m'enseigne et j'adhère par mon intelligence à la vérité reçue de Dieu. Donc elle vient ex auditu, hein, de l'écoute, c'est en écoutant la parole de Dieu, la prédication, soit écrite, hein, soit orale, qu'on trouve la foi, par lequel, par cet assentiment, nous croyons vrai, à cause de l'autorité de Dieu souverainement véridique, ce qui a été dit, attesté et révélé par Dieu personnel, notre Créateur et notre Seigneur. Toute l'apologétique chrétienne est fondée sur les miracles et les prophéties. Eh bien, vous le savez, ce n'est absolument pas ce que disent les modernistes. Ils ont détruit, malheureusement, ils ont détruit donc l'apologétique. Il y a une question. Non, ce n'est pas une question. Ça, c'est Jérôme qui m'avait mis, vous aviez mis la citation avant que je la mette, semble-t-il.
Non. Je l'ai mis après que vous l'avez dit.
Ah d'accord, très bien. Voilà, merci. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas les feuilles, merci. Voilà, et donc les arguments intrinsèques à l'homme, c'est-à-dire les expériences expériences religieuses, ce n'est pas que ce sont des arguments qui ne valent absolument rien, mais ce n'est pas par cela qu'on convertit les personnes normalement. C'est vrai que par exemple, dans notre religion, si quelqu'un se fait catholique, il va trouver une paix qu'il n'avait jamais eue avant. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ça ne suffit pas, ces arguments-là, normalement, pour convertir des gens. C'est ça que l'Église a dit. Les preuves principales de notre foi ne sont pas celles-là. Ce ne sont pas les arguments internes, ce sont des arguments externes que tout le monde peut toucher et peut voir. Notre culte, dit saint Paul clairement, doit être conforme à notre raison, c'est-à-dire notre foi doit être en conformité avec la raison. Nous nous soumettons, Romains 12, 1, nous soumettons notre intelligence de façon raisonnable. Quand j'adhère à la foi, mon adhésion à la foi, elle est raisonnable. Elle est raisonnable. Et après, la foi est une grâce, mais je sais qu'il n'y a rien contre la raison, et même tout est en faveur de la raison dans ma religion. Alors là, il y a une preuve par la raison. Il est conforme de croire à celui qui ne peut pas se tromper ni tromper. Or, on sait de façon certaine que Dieu nous a parlé par la preuve des miracles et des prophéties. Donc, il est raisonnable de croire à la parole de Dieu sur la preuve des miracles et des prophéties. Alors après, l'acte de foi reste surnaturel, mais il y a un processus avant, comme je vous ai déjà dit la dernière fois, et qui est rationnel pour celui, attention, qui n'avait pas la foi auparavant. Et beaucoup d'entre vous sont baptisés depuis tout petit. S'ils n'ont pas perdu la foi à un moment ou un autre de leur vie par leur faute, parce que si on perd la foi, c'est jamais de la faute des autres ou du bon Dieu, c'est de sa faute, n'est-ce pas? Si on a perdu la foi, c'est pas en faisant un péché mortel contre la foi, mais ceux qui ont gardé la foi depuis tout petit, c'est la dernière ligne pour l'enfant baptisé. Pour actualiser sa foi, il a la vertu de foi. Quand il a l'usage de la raison, il suffit qu'il fasse un acte de foi. Évidemment, ça sera par la grâce de Dieu, mais la vertu de foi, ça sera facile pour lui, parce qu'il a déjà la vertu de foi. Il n'a plus qu'à faire un acte de foi pour actualiser, si vous voulez, pour sa foi. Il l'a déjà. Mais les autres, il y a un processus rationnel, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois. Maintenant, la nécessité de la foi. Je vais passer un peu plus rapidement, évidemment, c'est important. Vous savez bien que la foi est nécessaire pour se sauver, mais je voudrais quand même essayer de finir avec la confession de la foi, parce que là-dessus, je vous apprendrai plus de choses. Je pense que sur la nécessité de la foi. Alors, c'est la nécessité de la foi, j'ai voulu tout vous mettre, vous le lirez si vous voulez, à tête reposée, si ça vous intéresse, qu'il y a deux sortes de nécessité. Et pour comprendre quelle est la nécessité, comment la foi est nécessaire pour se sauver. Il y a la nécessité de moyens et la nécessité de préceptes. La nécessité de moyens, c'est un moyen qu'on doit prendre forcément pour atteindre la fin, qui est donc, comme je vous l'ai dit, la nécessité de moyens, c'est la première phrase, c'est une nécessité indispensable de par la nature même de la chose. La foi, c'est le commencement de la vie éternelle. Si vous n'avez pas le commencement de la foi de la vie éternelle, vous ne pourrez jamais avoir l'aboutissement. Donc, c'est un moyen indispensable. Et la nécessité de précepte, c'est quand Dieu vous dit, vous devez faire ça. Ce n'est pas un moyen en soi intrinsèque nécessaire pour arriver au salut, mais je vous ordonne de faire ceci pour vous sauver. Ça, c'est une nécessité de précepte. Ou l'Église vous dit, vous devez faire ça pour vous sauver. Vous devez aller à la messe le dimanche. C'est un péché, c'est une obligation grave quand on peut y aller, n'est-ce pas? Donc là, c'est une nécessité de précepte. Mais Dieu aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire, vous devez aller à la messe tous les 15 jours. Non, il a dit, vous devez aller à la messe tous les dimanches, toutes les semaines, n'est-ce pas? Alors, au sujet de la foi, elle est nécessaire de nécessité de moyens pour tous. Ça, c'est quand même important à rappeler. C'est-à-dire que on ne peut pas rentrer au ciel si on n'avait pas la foi. Donc, toutes les personnes qui vont au ciel avaient la foi, n'est-ce pas, sur terre. Contre les modernistes qui affirment que, par exemple, ça c'est clair, Jean-Paul II l'a dit clairement, qui affirment que les enfants morts sans le baptême vont au ciel. Donc, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas l'espérance, ils n'ont pas la charité parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême. Et ils vont quand même au ciel, pour les modernistes. Je vous ai mis entre parenthèses, je m'excuse, j'ai un peu regretté après, j'ai mis le docteur Dor aussi, parce que le docteur Dor a fait un bien immense. Mais le docteur Dor, en tout cas, moi, je l'avais rencontré il y a 20 ans. Je me souviens très bien de la conversation que j'avais eue avec lui. Donc, il a fait une bataille formidable contre l'avortement. Mais il était moderniste. Enfin, en tout cas, il adhérait au concile. Hein. Il n'était pas moderniste, je pense qu'il avait la foi. Et lui, il disait que les enfants avortés étaient des martyrs. C'était le baptême de sang, ils allaient au ciel. Moi, je lui ai dit, mais ce n'est pas ce que l'Église dit. Et donc, si, pour lui, il était tellement touché par le drame des enfants qui mouraient par l'avortement, qu'il disait que c'était comme ça équivalait au martyr. Mais c'est absolument faux. Si ce n'est pas une hérésie, c'est proche de l'hérésie de dire une chose pareille. Alors, je ne sais pas si après, il a changé d'avis. C'était il y a longtemps. Mais voilà, pour dire que parfois, les gens ont des grandes qualités, mais à côté, il ne faut pas faire attention. Tout ce qu'ils disent n'est pas forcément juste. Le docteur Dor, il était très bien dans son combat contre l'avortement, mais là-dessus, il se trompait, et ça, c'est absolument certain. Donc, il faut la foi pour aller au ciel. Donc, les enfants qui n'ont pas le baptême, par exemple, ne peuvent pas aller au ciel. Ils vont là. Et donc, l'acte intérieur de la foi est nécessaire aux adultes. Si un adulte, pour aller au ciel, eh bien, il doit faire un acte de foi. Il ne suffit pas qu'il ait la vertu de foi, il faut qu'il fasse des actes de foi, c'est absolument nécessaire. Sinon, il ne peut pas donc aller au ciel. Alors, cette vérité s'oppose aux protestants qui assimilent la foi à une confiance, à une espérance qui en fait est pécamineuse. Pour les protestants, la foi, ce n'est pas croire à la révélation, n'est-ce pas ? C'est avoir confiance en Dieu. C'est comme les modernistes, d'ailleurs. Les modernistes, c'est à peu près la même chose. Donc ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est adhérer à, la vertu, à toute la révélation. Les rationalistes, par exemple Rousseau, affirme que la foi n'existe pas pratiquement, c'est-à-dire que tout ce qu'on sait sur Dieu et sur l'autre monde, on le sait par la raison. Non, il y a la connaissance de la raison sur Dieu même, la raison affirme des choses sur Dieu, mais il y a aussi la connaissance de la foi qui est bien plus riche, n'est-ce pas ? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, dit saint Paul. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si on n'a pas la foi, la vertu de foi surnaturelle, et on ne fait pas des actes de foi quand on est adulte, on ne peut pas se sauver. Alors, quelles sont les vérités qui sont absolument nécessaires de croire explicitement pour se sauver ? Saint Paul le dit, il faut croire que Dieu existe, qu'il parle aux hommes et qu'il récompensera les bons et les méchants et châtiera les méchants, qu'il est notre fin dernière et que dans l'autre monde, donc il est rémunérateur. Il va rendre à chacun ce qui lui est dû. Ça, c'est les premiers principes de la foi que tout le monde doit croire. Et si on n'y croit pas, si on ne croit pas que Dieu existe, si on ne croit pas que Dieu s'occupe de nous et il nous a créés pour l'autre monde, et que dans l'autre monde, il va récompenser les bons et châtier les méchants, ce n'est pas possible, la personne n'a pas la foi. Donc, elle n'a pas la foi, parce que ça, c'est la base de la foi, n'est-ce pas, dans laquelle est contenue toutes les autres vérités de foi. Quelqu'un qui croit cela, il peut avoir une foi implicite dans les autres dogmes qu'il ne connaît pas, n'est-ce pas ? Mais quelqu'un qui ne croit pas cela, certainement, il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi surnaturelle. Donc, malheureusement, il ne peut pas se sauver. Voilà. Alors, après ça, quelles sont les vérités qu'on est obligé de croire ? Alors, je vous ai mis deux termes techniques que je n'ai pas donc expliqué, mais c'est facile à comprendre. Donc, dans l'Ancien Testament, on n'était pas tenu à croire autant de vérités que dans le Nouveau Testament. Donc, on dit les antiqui, c'est-à-dire les anciens dans l'Ancien Testament, n'étaient pas obligés de croire autant de vérités que nous, les modernistes, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, dans le Testament moderne, si vous voulez, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Et de même, ceux qui enseignent sont tenus à savoir beaucoup plus de choses que ceux qui sont enseignés. Alors, saint Thomas, il dit les maiores, c'est-à-dire maiores dans la science, ceux qui ont comme devoir d'État d'enseigner. Évidemment, s'ils en savent moins que ceux auxquels ils enseignent, c'est un peu un problème, vous comprenez. Donc, ils ont une nécessité de connaître beaucoup plus de vérité de foi que les autres. Sinon, ils ne sont pas fidèles à leur devoir d'État. Mais les simples, ils ont besoin de connaître assez peu de choses. Et quelqu'un qui, par exemple, a eu très peu d'instruction religieuse, il peut avoir une foi très forte, mais il connaît peut-être beaucoup moins de vérité de foi que même un autre simple fidèle qui a plus étudié sa foi, mais ça peut lui suffire pour se sauver. Après, je suis venu sur une question, vous pourrez lire, je ne peux pas lire tout, parce que sinon je voudrais finir avec la confession de la foi, c'est ce qui vous intéressera le plus. Est-ce que, une question qui est intéressante, très intéressante, que se pose saint Thomas, est-ce que pour aller au ciel, pour avoir la foi, la vraie foi, il faut nécessairement non seulement croire que Dieu existe, non seulement croire que Dieu nous a créés pour une vie éternelle et qu'il va récompenser les bons et châtier les méchants, mais aussi croire dans le mystère de l'incarnation. Et là, donc, saint Thomas répond. Alors, avant le Christ, dans l'Ancien Testament, la foi dans l'incarnation et la rédemption, c'est les mystères principaux de notre foi, l'incarnation du Fils de Dieu, la rédemption par le Fils de Dieu sur la croix. C'est seulement les prophètes et les patriarches et ceux qui en savaient le plus de la révélation qui les connaissaient, ces mystères. Mais la plupart des Juifs ne connaissaient pas explicitement le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Donc tous croyaient dans le Messie, mais tous ne savaient pas que le Messie allait être le Fils de Dieu incarné, et encore moins, tous ne savaient pas qu'il allait mourir pour nous, il allait donner sa vie pour nous, c'est le mystère de la rédemption. Mais attention, nous on est dans le Nouveau Testament, donc ça nous intéresse moins l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, et donc il y a beaucoup de théologiens, dont saint Thomas d'Aquin qui est le plus grand des théologiens, dont saint Alphonse de Ligorie qui est un des théologiens les plus recommandés par la Sainte Église catholique, qui disent qu'on ne peut pas entrer dans le ciel sans avoir fait un acte explicite avant de rentrer dans le ciel, dans le mystère de la Trinité, enfin de l'incarnation, et de la rédemption. Donc, de l'incarnation, le mystère de l'incarnation présuppose le mystère de la Sainte Trinité. Et donc, c'est important de savoir ça, parce que pour amener des personnes au salut, il faut absolument les amener à la connaissance du mystère de l'incarnation de Dieu et de la rédemption. Et sinon, ils risquent de ne pas pouvoir se sauver. Donc ça, c'est l'opinion de saint Thomas d'Aquin, de saint Alphonse de Ligorie, qu'il faut faire un acte de foi explicite, vraiment connaître explicitement ce mystère. C'est pour ça qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un qui ne connaît pas le mystère de la Sainte Trinité. Il y a quelqu'un qui meurt, vous ne pouvez pas le baptiser comme cela. Même si vous lui demandez, est-ce que tu veux être catholique ? Oui, je veux être catholique, je vais te baptiser. Non, vous devez d'abord, c'est un cas pratique, vous devez d'abord lui expliquer que Dieu s'est incarné pour nous, il est mort pour nous sur la croix, il a donné sa vie pour nous. Et Jésus, c'est la deuxième personne de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Après seulement, vous pouvez le baptiser. Donc, c'est, voyez, je vous ai mis par exemple une phrase du Saint-Office. Donc, ça, c'est l'Église qui parle. Le missionnaire est tenu d'expliquer à l'adulte, même mourant, qui peut encore comprendre les mystères qui sont nécessaires, de nécessité de moyens, c'est-à-dire sinon on ne peut pas se sauver, de préceptes, c'est-à-dire que Dieu nous a dit qu'il faut... Donc, il manque de préceptes ici. De préceptes, c'est Dieu qui nous a dit qu'il fallait les connaître. Il doit enseigner, même aux païens mourants, les mystères de l'incarnation et de la rédemption avant de lui administrer le baptême. Voyez l'importance de ces mystères. C'est les mystères les principaux qu'on devrait, donc, méditer le plus. Sinon, dans la vie pratique, quelles sont les vérités de foi que tous les catholiques doivent connaître quand on est catholique, qu'est-ce qu'on doit connaître pour se sauver. Donc, le minimum indispensable. Alors là, je vous l'ai rappelé. Il faut connaître le « je crois en Dieu », c'est-à-dire ce que signifient les 12 articles de foi du « je crois en Dieu ». Le « je crois en Dieu », connaître par cœur le « Notre Père », le « Je vous salue Marie », ça c'est l'Église qui le dit, les 10 commandements, il faut savoir, même si ce n'est pas dans l'ordre, il faut savoir qu'il y a 10 commandements et savoir quels sont ces 10 commandements. Les sacrements nécessaires pour sa vie chrétienne, c'est-à-dire qu'un catholique a besoin de connaître au moins ce que c'est que le baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Que lui donne le baptême? L'Eucharistie? Qu'est-ce que c'est que la messe et l'Eucharistie? Qu'est-ce que c'est que la confession et la pénitence? Voilà, ça c'est les vérités que tout le monde doit croire. Je vous rappelle, donc, les 12 vérités de foi du « Je crois en Dieu », le « Notre Père », le « Je vous salue Marie », le décalogue et les sacrements que l'on doit recevoir. Ça, tout le monde doit le savoir. Donc, c'est important pour les catéchistes. Pour faire la première communion à un enfant, normalement, il doit savoir cela. Pour recevoir les autres sacrements, certainement, il doit savoir cela. Évidemment, celui qui enseigne ou celui qui a une responsabilité, qui est père de famille, qui est mère de famille, doit en savoir plus que les autres. À partir du moment où on enseigne, on est prêtre, on doit savoir plus que vous, normalement. Sinon, c'est un peu un problème. Mais ceux qui doivent enseigner à leurs enfants, ils doivent approfondir leur foi. Ils ne peuvent pas se contenter, comme on dit, de la foi du charbonnier. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants? Donc, il faut qu'ils fassent effort pour approfondir leur foi. Il y en a parmi vous qui le font avec beaucoup de ferveur et de mérite. Et ça, c'est bien. Voilà. Et étudier la foi et trouver les preuves de crédibilité de notre religion ne diminue pas la foi. C'est-à-dire, même si vous avez l'évidence que Dieu existe par les preuves de la raison, ce n'est pas que ça va diminuer votre foi. Vous le faites pour Dieu, n'est-ce pas? Donc, si vous avez l'évidence que Dieu existe, je pense que vous n'avez plus la foi en Dieu parce que vous avez l'évidence qu'il existe, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas que votre foi a diminué. Normalement, elle a cru parce qu'elle a augmenté parce que vous avez donc approfondi votre foi par amour de Dieu. Et j'en viens au dernier point que j'espère avoir le temps de finir, qui est le point... Ah oui, normalement, on va finir dans 5 minutes. Alors, je finirai peut-être la prochaine fois. Je vais le commencer. Je ne veux pas dépasser l'heure parce que je vais laisser aussi éventuellement quelques questions à ceux qui veulent poser des questions. Donc, la confession de la foi. Est-ce qu'il faut confesser la foi? Certainement, oui. Confesser la foi, c'est-à-dire la professer publiquement. Jésus dit, c'est une phrase qui est très frappante, qui est d'un côté très belle et un côté terrible. « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Et donc, je vais vous donner seulement les deux cas dans lesquels on est obligé de confesser la foi et le cas où on peut la cacher. Et j'y reviendrai, je développerai ça la prochaine fois. Il y a deux cas où on est obligé gravement, c'est-à-dire sous peine de péché grave. de confesser la foi, de dire qu'on est catholique, par exemple. C'est quand on est interrogé par l'autorité publique. Si l'autorité publique vous interroge, est-ce que vous êtes catholique, est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu, et donc vous devez répondre. Parce que si vous ne répondez pas, et c'est une injure publique faite à Dieu. Et ça risque de donner scandale. Et le deuxième, l'autorité publique, hein, une personne privée, vous pourrez déjà lire le commentaire, c'est une personne privée. N'importe qui vous interroge sur votre foi, dans certains cas, on peut éviter de répondre, jamais nier la foi. Mais si quelqu'un nous interroge, on peut par mépris ne pas lui répondre. Bon, vous lirez le commentaire, j'y reviendrai la prochaine fois pour que les choses soient claires. Je ne veux pas traiter ces points-là qui sont importants, donc à la va-vite. Donc j'y reviendrai, si Dieu veut, mercredi prochain. Le deuxième cas, on doit témoigner de la foi, c'est par charité envers Dieu ou envers le prochain, dans le cas où si on ne confesse pas la foi, notre prochain va être scandalisé. Toutes les fois que je me tais, ou que je tergiverse, ou que je, par mon attitude, je fais comme si j'étais d'accord avec des gens qui nient la foi, et que je scandalise mon prochain, eh bien là, je ne peux pas. Je dois confesser la foi à chaque fois qu'il y a scandale du prochain, si je ne confesse pas la foi. Il y a des cas où je peux me taire, mais ce cas-là, je ne peux pas. Sinon, je donne scandale. Donc, je cite le Code de droit canon, beaucoup d'entre vous doivent connaître ce passage, et je cite des cas de l'histoire de l'Église, dont un qui est récent, c'est l'indulte. On ne peut pas, pour obtenir la permission, évidemment, de dire la messe de Saint-Pie-V, comme on fait tant, malheureusement, de personnes, le prêtre, eh bien, faire comme si on acceptait Vatican II, évidemment. C'est scandaleux. Il y a des fois, et j'y expliquerai mieux cela si Dieu veut la prochaine fois, où on peut cacher sa foi, c'est-à-dire la dissimuler. C'est les cas où il n'y a aucune utilité quand on va confesser la foi. Donc, il n'y a aucun scandale du prochain, aucune utilité. Et donc, on nous interroge sur notre foi, par exemple, pour se moquer de notre foi, mais pour nous tourner en ridicule, il n'y a aucune utilité. Donc, je reverrai ce cas la prochaine fois. Mais dans la pratique, la règle pratique, je l'ai mis à la fin, il ne faut pas avoir peur de confesser sa foi. Et on a tous tendance par moment, à certains moments, de vouloir un peu donc, cacher un peu sa foi, dissimuler d'une façon donc, un peu peureuse. Et il vaut mieux toujours pencher du côté, c'est le moment de confesser ma foi, de faire la confession simple, candide, comme on dit, de la foi, sans trop s'interroger, est-ce que j'ai le droit de me taire ou pas? Parce que c'est un peu dangereux de faire toujours ce raisonnement-là. Si on étudie la théologie, c'est pas pour le catéchisme un peu approfondi, c'est pas pour voir chaque fois que je peux échapper à la règle. C'est pour faire toujours mieux. Mais je reviendrai, pour que vos idées soient plus claires, sur la confession de la foi la prochaine fois. Je vais m'arrêter. Donc, je n'ai pas tout dit sur ce point-là. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons vu? Alors, par écrit, il me semble qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas s'il y a quelques questions.
Quelqu'un a quelque chose. Une question, monsieur l'abbé?
Oui, allez-y, Jean.
Est-ce qu'il est possible d'assister, par exemple, pour un baptême ou pour un enterrement, à un office moderniste?
Alors, l'office moderniste, les offices, c'est une bonne question. Les offices, et soit catholiques, soit non catholiques. Il n'y a pas de milieu. Donc, malheureusement, les offices modernistes ne sont pas catholiques, même si le baptême, parmi le baptême des modernistes, c'est un des seuls sacrements qui, normalement, est valide. Mais donc, il n'est pas catholique. Donc, normalement, on ne peut pas assister. On ne peut pas assister. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Il peut y avoir des exceptions. Pour le baptême, je ne vois pas trop comment il peut y avoir des exceptions. Je pense qu'il n'y a pas d'exception, ou alors rarissime. Pour les enterrements, oui. C'est-à-dire que pour ne pas scandaliser les personnes, pour montrer qu'on compatit à la peine des autres, on va faire une assistance passive, vraiment passive. On ne peut pas participer activement du tout, sinon on participe à un culte qui n'est pas catholique. Donc dans ces cas-là, parfois on peut le faire. Parfois on peut le faire. Nous, dans notre institut, on a promis de ne jamais assister à un office moderniste. C'est même les fidèles qui veulent faire partie de l'institut ne doivent pas jamais mettre les pieds dans un office moderniste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire moralement. Mais voilà, à l'heure actuelle, il y a tellement de gens qui se donnent des permissions. Et quand il n'y en a pas, et il faut en tout cas être prudent dans ces questions-là, c'est une bonne question, parce que ce sont des rites non catholiques. Donc, si vous voulez, pour comparer, pour faire une comparaison qui n'est pas tout à fait juste, mais qui donne la règle, c'est comme assister à un rite orthodoxe. Vous ne pouvez pas y aller, sauf cas grave, donc de convenance grave, pour ne pas choquer, scandaliser donc, les personnes. Hein. Voilà. J'ai répondu à votre question.
Oui, merci, monsieur l'abbé.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, monsieur l'abbé.
Oui.
Là, c'était pour rebondir sur la question de Jérôme. Pour le cas des baptêmes modernistes, est-ce que si on est convié à être parrain ou marraine, on peut en soi ou quoi ?
Non.
Non ?
Et non, c'est un rite catholique. Donc, ouais. Non, c'est triste, mais on ne peut pas, parce qu'on est obligé, pour faire une chose bonne, mais enfin, plus ou moins bonne, enfin, être parrain, n'est-ce pas, pour guider dans la foi, on fait un péché. On participe. Là, pour être parrain, il faut participer. Il faut, forcément, on fait une participation active. Donc, là, il y a des règles, on ne peut pas. Donc, malheureusement, on ne peut pas. Voilà. Voilà, malheureusement. Enfin, ça, c'est notre avis. Voilà, mais je pense que c'est l'avis fondé sur les règles de l'Église. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai répondu à ta question, comme.
Oui. Merci, monsieur l'abbé.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, il n'y a pas beaucoup de questions, j'espère. Ou c'est que j'ai endormi plusieurs, ou alors c'est que j'ai été clair, mais j'espère que... Voilà, je reviendrai sur la confession de la foi la prochaine fois. Voilà, et c'est important, même dans la situation actuelle, hein, de toujours plus, la confession de la foi. On vit des situations qui sont difficiles, même maintenant avec le confinement, et on ne sait pas trop où ça va aboutir. Et on doit se rappeler la nécessité de confesser la foi. C'est pour ça que la prochaine fois, je voudrais revenir de façon plus explicite et plus précise sur cette question-là, qui est plus pratique et qui concerne notre salut. Parce que quand je confesse la foi, je fais du bien aux autres. Je fais du bien à Dieu, en quelque sorte, en ce sens que je rends honneur à Dieu. Mais je fais d'abord du bien à moi-même. En confessant la foi, je fortifie ma foi. Je gagne des mérites. Si je suis un chrétien peureux, je risque pour moi-même, déjà. Je risque pour moi-même. Donc, je reviendrai sur cette question.
Et vous avez une autre question, monsieur l'abbé ?
Oui.
Par exemple, vous savez, quand on est en public, je pense aux bénédicités ou même à l'Angélus, vous voyez ?
Oui.
Mais par convenance sociale, on est tenté de
le citer, vous voyez ? Et c'est le cas où on n'est pas obligé, oui. C'est même dans les cas pratiques vus par les théologiens. C'est le cas où on n'est pas obligé, mais j'y reviendrai la prochaine fois. Là, je crois que je ne l'ai pas mis. Mais on n'est pas obligé. Mais j'y reviendrai la prochaine fois pour vous donner les règles précises à la lumière de. Évidemment, c'est bien de le faire, mais est-ce que c'est, en fait, votre question, est-ce que c'est un péché de ne pas le faire ? Et donc, facilement, tant que je me souviens, mais je vous redonnerai plus. Donc, précisément les règles, ce n'est pas un péché de ne pas le faire, hein, normalement. Voilà. C'est mieux de le faire, mais c'est une différence entre ce qui est conseillé et ce qui est obligatoire. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage pour continuer cette période difficile. On espère pouvoir vous donner bientôt les sacrements, mais certains ont demandé qu'on vienne vous donner les sacrements. On verra ce qu'on peut faire avec l'aide de Dieu. Et priez pour nous, et nous, on prie bien pour vous, évidemment, pour votre persévérance dans cette période difficile. Sans messe, sans communion, sans confession, c'est vraiment difficile. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt.
Oui, bonsoir, monsieur l'abbé.
À bientôt.
Bonsoir, monsieur l'abbé.
Bonsoir, à bientôt.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup.
De rien.
Monsieur l'abbé, je peux vous poser une dernière question ?
Oui, allez-y, Jérôme. Oui.
Mais rien à voir. Vous avez reçu mon message ou pas ?
Et sur quoi ?
Sur téléphone.
Maintenant, là ?
Je l'ai envoyé hier et je me suis demandé si c'était vraiment envoyé ou peut-être ou avant-hier, je l'ai envoyé.
Et je me souviens plus, demandé. C'est possible, mais je me souviens plus. C'était quoi votre...
Vous m'aviez appelé et vous avez envoyé un message, rappelez-moi dès que vous pouvez. Voilà.
Ah oui, écoutez, j'ai vu, mais je ne pouvais pas parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai préparé le catéchisme. Hier, j'étais en voyage.
Monsieur l'abbé, j'avais pas une question, c'est pas une question, c'est juste... un petit exercice, en fait.
Oui, dites-moi.
Parce qu'effectivement, je pense aussi, quelque part, on peut exercer sa foi, donc faire des exercices, et je pense notamment aux exercices spirituels de Saint-Ignace,
oui.
Quelque part. Et d'accord, oui. Donc, on a des moyens aussi de pouvoir amplifier cette foi par ce type d'exercice, quoi.
Mais oui, ça fait partie d'une prière intensive. Certainement.
Et je voulais aborder aussi ce qu'on appelle les indulgences aussi. Est-ce que les indulgences ne font pas justement amplifier la foi ? c'est-à-dire les indulgences plénières qu'on peut avoir sur des actions qu'on peut faire sur la foi, notamment.
Surtout les prières. Mais principalement, les indulgences, c'est pour effacer la peine due à nos péchés passés. C'est-à-dire la faute est pardonnée par la confession, mais il reste souvent une peine à expier, soit dans ce monde, soit dans l'autre. C'est le but premier. Donc, ce n'est pas d'augmenter la foi. Les indulgences augmentent la foi dans la mesure où vous faites des prières. C'est-à-dire, pour gagner des indulgences, vous faites des prières et en priant, vous augmentez votre foi. Mais ce n'est pas le but premier de l'indulgence.
D'accord, merci.
Et, par contre, la prière augmente toujours la foi. Et voilà, et professer la foi, c'est quand même, c'est vrai que c'est un moyen, un des moyens principaux d'augmenter la foi aussi. Ça, certainement.
Merci.
Voilà.
Merci bien.
Vous allez bien ?
Oui, très bien, merci.
Bon, j'espère vous voir bientôt.
Ah ben oui, c'est un rêve même, je dirais. Ouais, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà.
Macron a dit que semble-t-il qu'on ne va pas ouvrir les lieux de culte tout de suite, mais mi-juin.
Ouais.
Ça repousse encore d'un mois.
Voilà, ben j'espère qu'on pourra y aller un peu avant quand même. Voilà.
Oui, on va voir ce qu'on peut faire.
Voilà, ouais.
Avec prudence.
Voilà. Ouais, prudence, oui. Et ben, bonne... inspiration, on va dire. Voilà. Il faudra choisir le bon moment. Voilà.
Monsieur Fernandez, bon courage.
Merci, merci. Merci à tout le monde.
À bientôt.
Voilà.
Et que Dieu vous bénisse.
Au revoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci.